Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Comme nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, nous recevons aujourd'hui, dans les studios de la rue d'Assali, à Toulouse, Muriel Modelli. Muriel, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être venue ici, Radio Occitanie, pour parler de ta dernière publication. Alors, Muriel, nous avons souvent parlé de toi, chaque fois que tu publiais un livre de poèmes. Et en particulier, nous avons parlé de tes derniers recueils qui étaient « Pensées maillées », qui avait été publié en 2012. Je rappelle que Muriel Modelli, elle est née à Saint-Denis, dans l'île de la Réunion, et qu'elle est aujourd'hui à Toulouse, bibliothécaire donc dans la ville de Toulouse. Elle participe à des revues, les revues en particulier, donc la revue de notre amie Cathy Garcia Canales, Nouveau Déli.
Tout à fait.
Dont vous trouverez les derniers sommaires et tout ce qui concerne dans les éditions Nouveau Déli sur notre site lespoètes.site. Et donc, et comme revue aussi, dans quelle revue on peut te lire?
Alors, dans Traction Brabant, j'ai beaucoup Traction publié Brabant. Chez Traction Brabant. Après, les revues à la fois numériques et papier. J'ai pu être publié par Recours au poème, par exemple,
ça
en
numérique.
Ça, c'est une revue numérique. Une revue aussi canadienne, mais qui était numérique, qui n'existe plus aujourd'hui. Et là, plus récemment, pas trop de revues. Enfin, il y avait Loupoli. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est l'ouvrage de la poésie. C'est comme Lolipo, pour la poésie.
Oui,
et ça, c'est une revue numérique. Et voilà. Enfin, après d'autres revues papier. J'essaie de me rappeler l'autobus. Mais ça, c'est des revues quand même un peu anciennes. Et voilà, je n'ai pas tout qui me revient en tête, mais j'ai tout qui est en fait mentionné dans sur mon blog.
Alors, voilà. Quel est ton blog?
Mon blog s'appelle L'œil bande. C'est en lien avec Louise Kutener.
L'œil bande, tout attaché.
Tout attaché. L'œil, enfin, l-œil, point bande, point blogspot.com.
D'accord. Voilà. Alors, vous trouverez tout cela sur notre site lespoètes.site, à l'émission, donc, en référence de l'émission d'aujourd'hui, mardi 24 décembre. Alors, on va reprendre tes publications. Donc, Pensée maillée a été publiée en 2012. Je te vois, donc 2 ans après, c'est le titre deuxième recueil. Et tu écris des poèmes. Tout ça, c'était aux éditions du Cygne.
Tout à fait.
Et puis, Rester debout au milieu du trottoir. Je pense que là, nous avons démarré d'ailleurs, nous avons fait une émission de mémoire, je m'en souviens beaucoup de ce recueil. Rester debout au milieu du trottoir, aux éditions Contre-Ciel, donc c'était en 2014. Puis sur la table, alors ça c'est des éditions numériques.
Oui, donc Kazakh, qui est toujours accessible gratuitement.
Donc vous pouvez aller le voir sur le site donc des éditions numériques Kazakh. Et ça s'appelle « Sur la table ».
Oui, tout à fait. C'est là où on l'écrit.
Et puis, « Feu de tout bois ». Alors, « Feu de tout bois », c'est Cathy Garcia Canales qui a publié ça. Donc, vous pouvez la voir également sur la revue Nouveau Déli Hautefort. Il y a un site également. C'est le Déli buissonnier numéro 1. Donc, elle avait ouvert Muriel Modelli cette collection.
Elle
l'avait ouvert. Et donc, c'est un tiré à part de la revue Nouveau Déli. C'était en juin 2016. Et puis, maintenant, elle vient avec... Alors, c'est publié, ce qui est intéressant quand même, c'est publié ici dans la région.
Le dernier recueil.
Le dernier recueil, Muriel Modelli, un très beau recueil. Aux éditions Hasard Atelier, dans la collection Esparto. C'est un recueil qui vous coûtera 18 euros. Et c'est un éditeur qui est à Pamiers, hein, mais enfin qui, en définitive, travaille essentiellement donc sur Toulouse. Et le recueil s'appelle Tomber la nuit, virgule, jour 9. Tomber la nuit, jour 9. Et également, on reprend dans ce recueil une partie que tu reprends, qui avait déjà été publiée.
Oui, en fait, rester debout au milieu du trottoir, ouais. Et ben, l'éditeur n'existe plus, donc oui. Ben, tous les livres ont été pilonnés, enfin ceux qui n'ont pas été vendus. Enfin, c'est la triste vie des recueils de poésie et des livres en général. Et donc, voilà, il me tenait à cœur que de le...
C'est très bien.
Voilà,
de le c'est très bien parce que, comme je disais, c'est un des... Le premier recueil urbain qui m'a marqué, ça a été celui-là, là, rester debout au milieu du trottoir. Et ça aurait été vraiment dramatique qu'on ne puisse plus le... y accéder, quoi.
Oui.
Y accéder.
Et,
donc,
mais c'est vrai que.
Bravo d'avoir fait ça.
Oui.
Très bien.
Elisabeth Aragon, donc la directrice de collection, m'a fait confiance, enfin, a redonné chance, en fait, aussi à ce recueil en deuxième partie de Tomber la nuit, jour 9.
Oui.
Voilà.
Alors, Muriel, il faut que tu donnes le ton tout de suite de cette poésie, en particulier de Tomber la nuit, jour 9, ton dernier. Et donc, je vais te demander tout simplement de nous lire des extraits.
Alors, tomber la nuit. Cela fait quelques jours que le sommeil glisse comme un drap au bas du lit au petit matin. Les nuits sont encore chaudes, mais le froid s'immisce comme un marivolage quand vient le matin. La nuit meurt, un oiseau chante, quelque chose palpite, le poil se hérisse, on ne sait trop pourquoi. On pense qu'écrire de la poésie éloignera ce poids sous la paupière. Dans leur chambre, les enfants dorment encore, hormis le pépiment du rouge-queue, il n'y a aucun bruit. On frissonne. Le silence qui rampe ressemble à un caveau. On ouvre la fenêtre. On écoute les ténèbres. On tente de comprendre, accoudé au châssis, le mystère profond s'écoulant de la nuit. On est sur le lit, gisant, dans la répétition de mort en devenir. « N'aie pas peur, » dit une voix. « L'heure n'est pas venue mêler son odeur sûre au fade de la tourbe. » On s'accroche à l'odeur douceâtre de peau de nouveau-né. On s'accroche à la déformation des poitrines nubiles. Et on passe d'un clignement d'œil, des vagissements aux sanglots sénescents. On pleure, on écrit, on pleure. On sait combien la fin de nuit perturbe la focale. Retourne le regard comme une peau d'orange, triture du bout de l'ongle ou d'une phrase, l'ombilique fébrile qui ne nous lie qu'à nous. Le poème est ce bout de chair morte, ce souvenir du commencement, que la mémoire trompeuse tente de ranimer. Et on se demande si deux pinces d'inox en tenaille sur nos tempes peuvent renouer les fils du passé. On se demande, une chose saugrenue remplaçant l'autre, quand surgira le premier rayon de soleil pour foudroyer la douleur tenace qui vrille nos tympans.
Donc là, on a une idée du ton. Donc ce sont des poèmes assez courts, hein, qui se succèdent. Peut-être plus courts d'ailleurs que ceux que tu avais écrits antérieurement, il me semble,
oui.
Hein, de mémoire.
Oui, oui, oui.
Voilà. C'est une écriture qui est, me semble-t-il, aussi plus resserrée dans ce recueil. J'ai senti ça. Une espèce de... Un peu comme si tu élaguais plein de choses. Tu essayais d'avoir quand même de te resserrer sur quelque chose, d'arriver oui. à te dépouiller, peut-être, de manière à aller au plus vif et au plus profond. C'est ce que j'ai ressenti. De ces poèmes, si tu veux, par rapport à tout ce que j'avais lu de toi avant.
Oui, là, je pense que Tomber la nuit, c'est effectivement aussi ces sentiments qui nous assaillent là, ben quand le bruit, enfin, quand le silence se fait, quand on est en connexion profonde avec soi-même, avec ben, ce que l'on est, sa mémoire, et donc quand on est en capacité d'accueillir donc des bribes des bribes de ce que l'on est, des bribes d'histoire, voilà. Donc pour moi, c'est un cheminement aussi à travers un rêve et des peurs, enfin qui ramènent en fait à l'enfance, parce que donc là j'ai lu un extrait, voilà, donc cette espèce de d'angoisse latente, comment le poème peut la mettre à distance ou pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au fond. Donc oui. Effectivement, c'est des petites choses qu'on attrape, oui. Et donc une envie d'être plus brève aussi dans l'expression.
Oui, oui. Parce que oui, comme tu dis, c'est des espèces de petits, oui, comme des petits flashs là qui oui. arrivent. Mais souvent, ce sont des angoisses.
Tout à fait.
Ce qui peut perturber un petit peu, oui. Tout d'un coup interpelle et peut-être empêche aussi le sommeil.
Oui, tout à fait. Et puis je me dis que, alors c'est un lieu commun de dire quand on ne va pas bien, on écrit, mais c'est pas que ça. La poésie, c'est aussi quelque chose qu'on doit maîtriser et qui, de fait, dans cette maîtrise-là, met à distance aussi oui. un certain nombre de craintes, d'angoisses et de peurs. On en fait quelque chose.
Oui, oui.
On en fait quelque oui. chose.
Oui. D'ailleurs, si on reprend là où tu en étais, oui. tu dis chaque nuit quelque chose oui. s'approche. Voyons. Dis-nous-le.
Oui. Chaque nuit, quelque chose s'approche de plus en plus près. Un chien aboie. Une ombre traverse la rue. On sent dans le frisson qui rampe dans le dos le parfum de fleurs remontant du passé. On voudrait attraper ce quelque chose. Mais tout nous échappe. On ne peut rien nommer. La mémoire est une fille facile qui se donne pour mieux nous égarer. Voilà. Soudain, un bruit de moto déchire la chambre en deux. Un cri de plaisir secoue l'appartement d'à côté. Et l'on se retrouve à l'instant même dans cette intrusion de l'oreille comme revenu longtemps, au temps d'avant. Longtemps, la joie a résonné comme un tam-tam furieux. Dans la nuit tropicale, des chiens hurlaient, des hommes ivres jetaient des mots brûlants, faisaient dans l'océan des ricochets.
Voilà. Alors là, on voit bien l'auteur de ça, de ces poèmes, qui fait un peu le journal immédiat de ce qu'il vit dans cette nuit. Hein, où on voit les bruits de la nuit. Donc celui qui ne dort pas, mais évidemment, il est à l'écoute des bruits et de ce que ces bruits aussi font naître d'imagination, de peur. Et puis, comme tu disais, il revient l'enfance là.
Oui.
Dans la dernière strophe où tu dis « Longtemps la joie a résonné comme un tam-tam furieux, dans la nuit tropicale, des chiens hurlaient ». Là, on n'est plus dans la nuit dont tu parlais, mais on est dans la nuit dont tu te souviens de ton enfance.
Tout à fait. Hein?
Des chiens hurlaient, des hommes ivres jetaient des mots brûlants, faisaient dans l'océan des ricochets. Voilà. Et donc, on te voit très bien, vivant l'instant présent, analysant ça, et en même temps, cette évasion qui fait que la mémoire nous transporte dans ce qui fait notre vie, c'est-à-dire dans l'enfance.
Oui, c'est aussi ça la puissance du poème, c'est oui. ces mélanges de temps et cette transcendance là par les mots, par l'écrit aussi et la capacité de tout ramener sur le même plan et en faire quelque chose, puisque moi dans mes poèmes, enfin dans mes recueils en général, l'île est très très présente, l'île de la Réunion est très très présente. Une île un ouais. peu fantasmée, une île perdue, et une île à laquelle je reviens de façon un peu cyclique dans tous mes recueils, même si je m'en défends, quoi.
Oui.
Je dis souvent que je ne veux pas écrire toujours les mêmes choses, mais quand même, l'île, elle est profondément en moi. Ou je suis profondément l'île. Je ne sais
oui,
pas
oui,
comment
oui.
il faut le dire.
Oui. On ne peut pas échapper à ce qu'on a été, je crois. Et moi, je vois ce que toi, tu parles de ton île. Moi, je suis d'un village d'Ariège où je ne vais plus souvent, même très très peu souvent maintenant, mmh. mais qui reste effectivement totalement présent dans mes préoccupations, dans mes réminiscences et certainement dans mes choix. qui influe sur ce que ce village a été pour moi, certainement dicte ma conduite de maintenant, même que je n'y sois plus, il est toujours présent. Et on ne peut pas... C'est en ayant ressenti ça que je comprends parfaitement ce que tu viens de me dire, tu vois. Et ça aurait été le contraire qui m'aurait étonné, quoi. Oui.
Et aussi, je me dis que la poésie donne l'occasion aussi d'affirmer la complexité de l'être. Parce que nous sommes de faire des choix, d'être... je parle plus au quotidien dans ce qui autour de nous, d'être comme ci, d'être comme ça, d'affirmer on est français, comme si on devait rejeter aussi une partie de son identité, et en fait on est un mélange de tout ça, et la poésie c'est comme ce mélange de langues aussi. En fait, je veux dire, il y a comme une espèce de parallèle que je peux faire moi entre l'écriture et la complexité de l'être. Je me dis la langue c'est aussi un espace de résistance. Montrer mon identité avec toute sa complexité, mes paradoxes, c'est aussi la poésie, sa complexité et ses paradoxes, et aussi elle ne se donne pas comme ça, je sais pas si je suis très claire, mais
si justement c'est une des fonctions majeures aussi de la poésie. C'est Octavio Paz, il disait la parole est un pont. Bon, c'est ce que tu viens de dire. La parole est un pont, c'est-à-dire que le poème permet justement d'aller vers autre chose, d'aller vers les autres rives. Il va faire traverser les fleuves, là, le poème, c'est ça. Hein. La parole est un pont, c'est la parole qui nous porte ailleurs, qui va arriver effectivement à passer de ce que tu appelles de nos contradictions, nos paradoxes, nos différences... dans cette espèce de conglomérat qui est tout homme, tout être humain est dans cette complexité, et l'ensemble des êtres humains encore au plus, puisqu'ils sont constitués chacun d'autant de complexité. Et là, le poème va pouvoir, la parole va pouvoir aller de l'un à l'autre, va être ce pont qui relie les hommes aussi.
Oui, qui relie les hommes, et puis aussi qui s'affirme comme un espace, dans notre période, la période actuelle où tout est binaire, où il faut être ou tout blanc ou tout noir, c'est quelque chose, la nuance,
La subtilité.
On
l'a perdu.
On l'a aussi perdu. Et le poème, justement, bouscule les gens dans leur certitude, et je trouve que ça, c'est bien.
Oui. J'espère que c'est, il n'y a pas que le poème, que c'est l'art en général,
L'art en général,
le poème peut-être plus particulièrement quand même, parce que le poème c'est aussi la parole.
Oui, c'est ça, c'est
il
la
dit
langue.
Les choses, il nomme les choses, Et comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et dans le poème, lui, il nomme bien. Voilà, il est ce pont. Alors, pour revenir à tomber la nuit, jour 9, il y a cette angoisse que tout être humain peut connaître dans la nuit, s'il se réveille, par exemple. Je ne connais personne qui, s'il est obligé de se réveiller dans la nuit, si pour une raison quelconque, il se réveille, il ne soit pas saisi quand même de ce sentiment d'angoisse.
Oui, d'angoisse, et puis aussi, c'est dans la nuit, quand il n'y a plus tout le brouhaha du quotidien, où on est vraiment en phase avec
le sens de
l'existence. Qu'est-ce qu'on fait avec soi-même et le monde,
c'est aussi un paradoxe, parce qu'on est tout seul
et
dans le noir et c'est là que au contraire on est le plus dans l'univers, quoi, dans l'universalité de la condition humaine. Et tu dis alors, l'angoisse monte comme une vague prête à noyer chaque cellule de peau, chaque organe que brassent nos cadavres.
Oui.
Une image assez terrible.
Oui.
Voilà. Tu vas peut-être continuer, s'il te plaît.
Oui, bien sûr.
À lire un petit peu.
Je continue toujours de tomber la nuit.
Oui.
Alors, monde aussi. Ce bout de terre qui nous sert de cerveau, on voudrait l'écrire. Coucher une fois pour toutes du littoral nos mots, avant que tout bascule au bord, tout au bord du vide. Espace impossible, pays d'enfance en creux, dont on voit s'éloigner les contours dans le gris de nos cheveux. Nos dents claquent, on sonde le fond du cratère, on attend l'éruption du volcan, et la langue dans la bouche fond comme une hostie. On ne comprend pas, dans la déglutition, pourquoi l'enfance s'invite dans ce créole bancal. On ne comprend pas comment notre pensée dévie. On a beau savoir qu'il n'existe pas de pensée magique, que rien qui sort de notre bouche ne se matérialise jamais, que rien qui sort de notre bouche ne nous rend plus réels, que rien qui sort de notre bouche n'est vrai, on récite quand même une petite prière. Un petit « Je vous salue Marie », que ces mots sans queue ni tête, sans poids ni conséquence, éloignent pour de bon la peur qui tord le ventre. Dans ce cauchemar de fin de nuit, on peut broyer sous les molaires les mots trop blancs, les colorer d'épices, on peut relever la jupe haut, montrer son sexe, ses os, on peut être bancal. On peut accueillir sous la peau le moiré des montagnes, rire et fuir là-haut, marronnage abyssal, les injonctions paradoxales, le lever de drapeau. On voudrait que la nuit ramène ce désir des premières années. On voudrait retrouver la course dans l'herbe, l'odeur de lait de maman, le goût de mangue, nos yeux noyés de bleu. On voudrait ne pas être englué par toutes ces pensées sales qui nous clouent aux portes, nous paralysent, nos ailes épinglées par la peur du sauvage. On a beau chercher à articuler plus distinctement, tout est blanc comme un drap. Le poème s'achève, caillou dans l'eau. On est enfermé dans un cercle, dans l'île, en course sans fin, condamné à rejouer l'histoire qui nous échappe, que l'on poursuit en vain.
Alors là, il y a l'image du cercle et de l'île.
Oui. Hein.
Donc, c'est-à-dire... C'est un territoire qui est un territoire clos.
Clos. Tout à fait, hein? Oui. Oui, tout à fait. Yeah. Et presque, je veux dire, c'est aussi cette espèce de cercle dans lequel je tourne de recueil en recueil et qui, voilà, mais je n'en ai pas fait le tour. Je n'en ai pas fait le tour.
Alors, on voit que ces poèmes, hein, il y a peu d'adjectifs. Ce que je disais, c'est une écriture qui va vraiment à la cible, quoi. Il n'y a pas de fioriture. Tu vas directement à l'idée que tu veux, qui te préoccupe. Hein.
Oui, et pour ce recueil, de toute façon, j'ai quand même pas mal travaillé. J'ai quand même tendance, moi, à être dans l'écriture du trop. Donc, ça me met beaucoup de temps, en fait, à épurer les choses.
Ah, oui.
Et c'est intéressant ce que tu disais sur l'adjectif. Souvent, j'ai besoin de qualifier les choses.
Oui.
Et parfois, il me semble que... Enfin, en tout cas, dans ce recueil-là, ce n'était pas nécessaire d'en mettre trop. Puisque chacun peut faire sa route avec son... Voilà,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Et que je n'ai pas besoin de forcer le trait. Enfin, voilà. Oui. Mais ça, c'est aussi... Voilà, c'est pour ça, je veux dire, le poème parle de soi, mais en même temps, c'est un travail d'écriture. Donc, pour moi, j'essaie d'être dans ces deux-là. Et d'ailleurs, ce recueil est là. Enfin, ce texte-là, il est ancien. Le jour 9, il est un peu plus récent. Et les choses se construisent, en fait, au fur et à mesure. Les résonances, par exemple... Je dis que ce recueil-là, enfin, Tomber la nuit, jour 9, c'est assez binaire aussi, finalement, moi qui parlais de binarité. C'est-à-dire ce balancement entre la nuit et le jour qui correspond, pour moi, intimement, le noir de l'écrit sur le blanc de la page, ma couleur sur le blanc du monde. Enfin, voilà, il y a quelque chose, un peu de balancement à chaque fois dans l'écriture. Et j'aime bien quand il y a des résonances. Donc, on va retrouver de la première partie à la seconde, des images un peu, par exemple l'image de la poule qu'on va retrouver, enfin voilà, il y a des images qui reviennent, alors à mon corps défendant, et c'est après que je me rends compte que j'ai ces correspondances-là et que je vais les retravailler pour qu'elles aient du sens. Donc, voilà.
Voilà, on pourrait finir le dernier poème, donc avant d'entamer jour 9, hein, le dernier, juste avant jour 9 là. On va retrouver l'île.
Oui. On voudrait jouir jusqu'à ne plus penser. On voudrait jouir pour enfin s'embraser. On voudrait jouir l'île, comme un cœur affolé sous le va-et-vient de graines de cascavel. Dans le ventre du petit matin, on voudrait jouir. Mais la nuit s'étire. Le poème systole, diastole, mouvement désordonné entre nos côtes. Le jour est encore loin, on n'y peut rien.
Donc là, il y a toutes les, je disais, les affres quand même de l'angoisse, hein, sont ressenties là. Tu reviens sur l'île. Et puis qu'est-ce que c'est la cascavel?
C'est une petite graine, enfin il y a un instrument de musique qui s'appelle le cayambe, dans lequel on met des petites graines, et quand on...
C'est des petites
graines sèches, enfin, et qui permettent en fait, qui sont utilisées dans cet instrument de musique-là.
Donc
il y a aussi ce côté lancinant.
Rythmé. D'accord, oui, d'accord. Bien, on peut aller au jour 9.
Bien sûr, le jour 9. Mais bon, il a beau être 9, mais il est quand même... autant on est dans l'intériorité dans la première partie, autant dans la seconde, et ben c'est tout ce que je peux voir, tout ce que l'on peut voir à l'extérieur, et comment tout ça nous parvient, nous bouscule, nous arrive, et en même temps, comment grâce au mot, on peut en faire aussi autre chose. Parfois, quand le jour vient, on entend des battements de cœur rouler comme des cailloux sous la chaussure. On s'habille, on sort, on avance, le soleil brille, rien ne nous arrête. Parfois, le jour roule comme une pierre dans la poitrine. Tout devient léger. Les côtes s'écartent pour les fleurs sauvages des trottoirs sales et inégaux. Parfois, on siffle le jour comme on dévore les mots. Le poème pèle comme la peau d'un fruit. L'été est chaud et moite, la pensée est avide, roule, déboule le long de gorges sèches. Parfois, tout est à peine, le pied posé dehors, stupidement, obstinément, net. Un arbre est un arbre, un mur est un mur, un homme à bout de souffle, une enveloppe vide, aux poumons contractés. Parfois, l'image s'immisce, crée ses volutes, file sa métaphore, mais un homme à bout de souffle n'est à la surface de l'œil qu'un homme à bout de souffle. Parfois, le paysage des villes nous donne des claques, de larges et vigoureuses baffes à réveiller les morts. Les voitures passent, les gens marchent, les vélos nous dépassent, grince la scie sur nos mollets. Parfois, tout est aigu comme une épée, pénètre l'œil, la bouche, le nez. On se sent si... Le mot manque, le mot, tranché en deux par le fil du couteau. Parfois, tout pèse. La parole donnée, le silence reçu, le chemin pour y aller, allez, va, nulle part, ailleurs. Parfois, on regarde impuissant nos chevilles s'enfoncer dans l'asphalte, saigner sous le cuir bon marché. Les gens s'agitent, s'excitent, on ne peut plus bouger. On pleure, on crie, expérimente, la douleur du temps qui passe abîme. D'autres fois, dans une queue quelconque, dans un quelconque bureau, la même sensation monte. Vague rouge qui brûle les yeux, qui donne envie de mordre, d'arracher des sourires. Parfois, il arrive dans ce bureau que l'on ait honte. On se sent lourd, le gras nous capitonne, rien ne peut nous toucher. Le monde flotte dans une espèce de gelée rose, où tout parvient comme assourdi et diminué. Parfois, il arrive qu'on ait presque honte d'être. On exagère. On ne le pense pas vraiment. Pas tout le temps.
Voilà. Alors, il faut voir aussi l'utilisation de l'espace, des mots sur la page. C'est pour ça qu'il faut... La poésie, il faut à la fois l'écouter, mais il faut la lire aussi. C'est-à-dire, il faut vraiment les deux. Il faut le texte, pouvoir écouter le texte, bien sûr, c'est important. Mais il faut pouvoir aussi le lire, parce que là, c'est quand tu vas, la façon dont est placé le mot dans la page, effectivement, donne des renseignements sur d'abord la façon dont on doit le lire, et le lire intérieurement et aussi à voix haute, mm-hmm. Ça va donner un renseignement. Mais c'est aussi cette mise en scène de l'écriture et des caractères même, qui construit aussi toute l'architecture du poème.
Oui, j'avais beaucoup aimé, mais je l'ai peut-être déjà dit, parce que je le dis à chaque fois, ce que j'avais lu d'Antoine Aymas sur l'écriture poétique, oui. Et sur ce qui fait la force du poème, c'est la capacité d'un vers d'être lié soit à ce qui le précède ou soit à ce qui le suit. Oui, oui. Et selon l'un ou l'autre, ce n'est pas du tout le même sens qui en sort. Et donc ça, c'est chaque lecteur qui va faire sa voix. Oui. Et je trouve c'est donner une grande... puissance au mot, quoi.
Oui. D'où la nécessité d'avoir le texte sous les yeux, quand
même.
Oui,
c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Oui. C'est ça aussi, je pense que la poésie, c'est les deux. Effectivement, il y a une oralité qui est... il faut que le poème dans l'oralité percute. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a cette réflexion, cette façon de lire. Le lire, ça veut dire aussi prendre le temps de s'arrêter sur le mot. Hein, ce qu'on ne peut pas faire quand on l'écoute.
Oui, tout à fait. Hein, tout à fait.
Alors, donc, on continue avec les parfois. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a une analyse un peu méticuleuse de ce qui peut se passer à ce jour neuf. Quelles sont les sensations qui arrivent. Et qu'est-ce que ces sensations veulent dire. Qu'est-ce qu'elles traduisent à la fois de l'intime, mais aussi tout simplement de ce qu'est le monde, le monde extérieur qui ne dépend pas de nous. Il y a les deux dans ces réflexions sur le parfois.
Oui.
Par exemple, parfois on trouve les gens laids ou beaux.
Oui.
Ça, voilà. On n'a que son regard pour écrire, pas de mots, on pense à tous ces types coincés dans leur peau, plantés au sol. Voilà. Oui. Bon. Et c'est merveilleux de pouvoir écrire comme ça, parce que c'est une pensée très triviale, très, comment dirais-je, très immédiate, et pas du tout comme réfléchie, mais qui vient spontanément, et en même temps, qui renseigne un peu sur le regard qu'on a sur le monde.
Oui, c'est vraiment pour moi, le regard est extrêmement important. Je dis souvent que j'écris avec mes yeux. Enfin, faire attention à ce qu'on voit aux autres, quels que soient ces autres, donc qu'ils soient beaux ou qu'ils soient laids, mais pour moi c'est important. Ce ne sont pas des jugements de valeur, moi je les trouve, mais ce n'est pas grave.
C'est
important de leur donner aussi une existence. Ces choses triviales,
parce
qu'elles font partie de notre monde,
bien sûr. Et le poème a toute sa place dans cette vision-là.
Oui.
Voilà.
Oui, tout à fait.
On va continuer un petit peu, parce que nous avons encore pas mal de temps, c'est bon.
Parfois, on pleure un peu moins souvent. Un chagrin remplaçant l'autre, une guerre égalant un découvert bancaire. Nos petites souffrances dévorant les grandes ou le contraire. Parfois, on voudrait avoir la force de ses convictions, tout soulever, tout faire péter, offrir à nos enfants ce futur désirable. Mais le plus souvent, on n'est que faible comme un slogan. Parfois, on voudrait étreindre le soleil à l'horizon, avant qu'il fasse nuit noire, qu'on trouve enfin dans l'anfractuosité sur le trottoir une voie. On voudrait étreindre parfois un corps neuf ou vieux, sentir dans les rides d'une peau la douceur des collines et les odeurs de crème, accueillir dans l'embrassade le frottement fripé de ce qu'on aime. Parfois, on voudrait éteindre les bruissements aigus sur les écrans, sur les murs de la ville gribouillés des poèmes, des mots bruts ou des dessins obscènes, faire taire dans nos boîtes crâniennes toutes ces voix qui possèdent et imposent comme une amulette leur vérité. D'autres fois, on voudrait que le jour soit sans fin, que recommence éternellement ce premier matin où l'on découvre, présent perpétuel, le ciel cérulé un comme écrin à l'ourlet des nuages. La joie d'être là sous le soleil, la peau bruissant son caramel sous une pluie de blésé, sans raison, sur nos joues, au creux de nos oreilles. toujours on voudrait la puissance des mots, des métaphores charnues, profondément épaisses, des images bruyantes, bruissantes, exotiques, la langue rouleau compresseur écrabouillant la tristesse et la peur sous la jouissance du dire. Toujours on voudrait la langue comme un pied de nez à la lettre. Une excroissance de chair odorante au milieu du visage des puissants, et nous ririons très fort comme des feux d'artifice que les lumières et les odeurs de poudre débordent de nos bouches. Toujours on voudrait, dans ce conditionnel, mêler les autres temps, les espaces et les noms. Au fil des poèmes, repeindre nos mots, de buis, de cumin, d'organdi. On voudrait qu'il y ait autre chose que cette odeur de peur qui suinte du fil de nos peaux. On veut, on voudrait, parfois, toujours, chuchoter une histoire inconnue à écrire, comme un frisson chair de poule qui caquette et soulève nos lèvres dans un sourire.
Voilà. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de, sensualité déjà dans ce, dans ces textes. Et puis, je regardais ce que j'avais vu moi d'entrée, c'est effectivement les verbes. Il y a beaucoup de verbes. Hein, donc, c'est une poésie un petit peu où il y a, tu décris plus l'action des choses.
Oui. Hein,
Et ça donne beaucoup de force, effectivement, au texte. Hein. Beaucoup de force, puisque, bon, on voit le squelette, là, directement. Et puis, bon, il y a cette sensualité. Et puis, j'aime beaucoup ça, sous la jouissance du dire. Voilà, la jouissance du dire.
Oui.
Donc, ça veut dire que, on voit que l'auteur qui est en train d'écrire ça, il y a cette méticulosité peut-être aussi de l'analyse des sensations, et ce que ces sensations effectivement trahissent de pensées plus profondes, qui dépassent l'auteur de ce qui va écrire ça. Mm. Hein. Et en même temps, on sent que cet exercice était un exercice qui était très profitable.
Oui.
Puisque tu dis sous la jouissance du dire.
Tout à fait.
Hein.
Tout à
voilà.
fait. Voilà. Il n'y a rien de plus fort et de plus puissant
oui.
que le mot. C'est vrai.
Voilà. Donc, ça, c'était pour cette première partie. Alors, c'est une partie aussi très rythmée. Il y a le parfois.
Oui,
donc,
oui.
ça revient. C'est très agréable à lire. Hein. Mais il faut avoir le texte. Il faut avoir le texte. Et puis, bon, pour les dernières minutes, on va parler de rester debout au milieu du trottoir. Donc, c'est ça qui a été repris. Qui avait été publié par Contre-Allée, si j'ai bonne mémoire, hein, c'est ça.
Contre-Ciel, pardon. Et à la différence voilà. de la publication initiale, là, il n'y a pas de photos. Le recueil initial, il y avait des photos dont le rendu n'était pas terrible quand même, mais bon. Et donc là, en fait, je reprends ce texte-là. Qui, avec le recul et le temps, parce que donc oui. c'était en 2014, je le sens plus violent encore dans le contexte, on va dire, des relations hommes-femmes et de, enfin voilà, puisqu'en fait ça décrit une relation assez dure entre un homme et une femme, enfin d'un couple, tous les deux ayant chacun sa part de enfin voilà, c'est ses propres névroses et ses propres douleurs, mais je le trouve, enfin en tout cas ma réception elle est un peu différente, et je pense que la réception du lecteur sera sans doute
peut changer aussi.
Oui, sera sans doute.
Oui.
Bon, je vais voir ce qu'on m'en dira.
Oui.
Mais
alors c'est le premier recueil dont on a parlé ici. Hein.
Oui.
Voilà. Ce serait peut-être intéressant. J'essaierai de voir et vous pouvez toujours vous le lecteur et auditeur. Aller sur le site les.site et voir, je me souviens plus quelle année c'était, mais il y a vers 2015-2016 peut-être, voilà, vous faites défiler les années jusqu'à ce que vous trouviez Muriel Modelli et vous voyez ce qu'elle en disait
il y a quelques années.
Voilà. Bon, alors on l'écoute.
Le premier
oui.
Donc restez debout au milieu du trottoir, histoire poétique, s'introduire au monde. Au tout début, elle part, avec dans la poche un œil et un paquet de clopes pour faire genre. parce que parfois elle s'arrête au milieu du trottoir, la main droite dans la poche droite, la main gauche dans la poche gauche, tout à sa juste place, et l'impression quand même d'être pilonnée par la pluie drue qui tombe. Du ciel ou du plafond, ça plombe. Elle allume une cigarette, elle fait des ronds de bouche, elle suçote son pouce. Il y a toujours un vieux mec, un vieux mac, un marin, après tout c'est pareil, qui connaît la chanson. Elle sait qu'elle devrait écraser le mégot, bourrer de coups de poing le bide ou le cerveau. Mais elle ne fait rien d'autre que couler des aisselles, absorber la rincée, lécher l'heur qui ruisselle. De toute façon, ça ne fait que commencer. À force d'éponger le plafond, elle ne voit plus droit. Sa gueule fort au fond du pavillon, une voix nasillarde annonce sans raison. Elle enlève sa jupe, enfile un pantalon. Un truc de marin dit « Chérie, le monde ça va si on est un garçon. » Ou « T'es qu'une paire de fesses qui flotte dans le vent. » C'est ça que dit le truc de marin ou de mac. Les types et leurs couteaux à la main. Rester debout au milieu du trottoir, les jambes en équilibre sur des talons pointus. Le type en face n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, ni de lever un doigt. Il a à ses côtés les yeux qui filent bas. Ravaler la hargne, le paquet de clopes, laisser l'œil, la bouche ricocher, mettre les pas dans l'ombre de ceux de l'homme louche, le type à la ceinture, le couteau aiguisé. L'appartement dans la rue étroite. L'appartement l'écueille dans une cour sombre qui donne sur une rue étroite. D'ailleurs, c'est son nom, rue étroite. Il lui dit, ferme les yeux, tâtonne, on doit se faufiler. Elle rentre la tête, les épaules, elle rassemble ses cuisses, ses mollets. Ils doivent s'enfiler par le chat de la nuit. Il fait noir, il lui tient la main. Il ne la lâche pas pendant les 64 marches qui les séparent du lit. Il souffle très très fort, car il porte sa main. L'homme pèse son poids, la lune doute et chaude, dans sa paume pliée, son corps en quatre. Les pièces sont exiguës, et ils sont très très seuls. Alors, je voulais changer...
Donc on voit là qu'on est dans un registre
un peu différent, tout à fait. Oui, beaucoup plus.
Bon. On est presque dans les scènes de rue là.
Oui, hein? Tout à fait, oui. Oui. On en avait parlé à une époque, il y avait eu quelques critiques de poésie du quotidien, donc
Cette transcendance qui apparaît quand même toujours par le poème, ouais. Qui arrive à transcender complètement dans cette chose-là, quoi.
Ouais.
Qui arrive à distancier justement les scènes de rue, par exemple, qui sont là, les scènes de vie, hein, scènes de vie.
Ouais.
Mais le poème arrive à les mettre à distance. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui se regarde. Qui se regarde marcher, qui se regarde, voilà, et qui a l'air de prendre justement de la distance par rapport à ce qu'il est. Et c'est aussi peut-être un des effets du poème, ça.
Oui. Hein,
de pouvoir rebasculer dans un monde... Je pense que tu pourrais peut-être prendre à partir de l'autre femme, le même homme ou le contraire.
L'autre femme, le même homme ou le contraire. Au bout d'un moment, la voix familière au bout du fil, elle est inquiète. Pourquoi ces mots ? Elle se retrouve le soir même, dans le bar d'à côté. Invente pour l'occasion un truc d'allumette ou de gaz. En bas, des hommes fument. Elle porte une robe noire sous un gilet violet. Son visage est soucieux, ses cheveux courts. Encore ces mots ? Elle regrette que l'homme qui partage sa vie ne soit pas là pour constater combien elle est douce, patiente, aimante, combien, malgré les rides, la carnation de blonde écrase la rousseur. Elle voit dans le miroir les froncements sur sa lèvre plissée. C'est un homme gentil, c'est toi qui es méchante. Elle n'est pas très à l'aise parce qu'il est tard, parce qu'en sortant du bar, Bondé, inévitablement, des mains frôlent ses fesses. Elle n'est pas très à l'aise parce que ça rit. Eve cherche dans la forêt des pierres. De loin en loin revient ce rire sur la robe blanche, cadeau, du père. Dans des doigts longs et fins, la blonde chiffonnée. À l'intérieur, la nuit décomplexée. Dehors, la pluie. Voilà que s'épanouit dans l'allée grise de l'enfance, sur les mottes de terre, la minuscule, majuscule, vibrante suée d'herbe. L'insecte frémit, les chevilles tressent, le nu crépite, les phrases averses, la bouche déborde, grêle de grains de riz. Flambée unique dans l'arrière-cour, le cœur de braise. De loin en loin, dans le jardin, revient ce rire, et sa dislocation en éclat cristallin. Le désespoir du singe. Il est à la fenêtre, dos à la lumière. Il lui demande si elle s'ennuie. En bas, c'est la fête. Des rires étouffés escaladent le mur, de sonnailles juvéniles et de faux carnaval. Il lui demande si elle entend. Ce bonheur qui monte agrippé aux lézardes, si elle sent cette odeur qui filtre entre les branches, si elle aperçoit sous l'arbre la jeunesse qui file, si elle discerne au loin les hormones qui passent. Dans les poignées de poils, c'est un impérieux trop plein. Il lui demande. Elle n'entend rien que l'araucaria qui dépiote le monde de ses épines tendres. Elle devine en sillant son visage un peu mou. Sous les aiguilles fines des humeurs assassines, elle distingue le flot des couleurs qui bavent. Et dans l'ombre qui baigne la pièce de ses feuilles, elle sent sur sa joue la virgule. Elle murmure. « Je suis vide comme une vieille seringue. » Il lui répond à contre-jour, pas que.
Bon, alors on voit, il y a de l'humour aussi.
Oui.
Hein. Un humour
un peu dur, mais bon.
Voilà. Je suis vide comme une vieille seringue. Ouais. Il lui répond, pas que. Bon, c'est des scènes de vie aussi, des scènes de vie. Que le poème saisit un peu comme un photographe saisit des moments de vie, quoi. Mm-hmm. Hein, et le photographe, s'il est bon, il peut faire de ces moments de vie des moments d'art. Mm-hmm. Hein, de l'instantané, il peut faire une œuvre d'art. Et le poème, c'est pareil, en définitive. Il peut, là, faire, s'il est bien construit, le poème, s'il l'épouse totalement, comment dirais-je, la sensation profonde de ce que l'on peut ressentir, c'est aussi une œuvre d'art sur une scène.
Oui.
Hein, sur une scène de vie, sur un moment de vie.
Sur un moment de vie.
Oui, et quel qu'il soit. Ça peut être un moment de vie dur, ça peut être aussi un moment de vie banal, hein, comme... Tu en parles de temps en temps de ces moments de vie qui sont des moments de vie de la trivialité, oui. Hein, la vie du bureau, la vie, et bon, c'est ça la vie, c'est dans tous les objets, la vie. Voilà. Et il y a là, alors, moi je trouve que j'ai entendu quand tu as présenté ce dernier livre, que l'éditrice justement disait qu'il y avait peut-être une sorte d'impudeur, mais moi je ne crois pas du tout. Je ne sens pas du tout d'impudeur, au contraire, je trouve que c'est assez... la façon dont tu dis tout ça, c'est... Tu peux dire des choses triviales, mais justement, tu as ce talent de ne pas faire dans l'exhibitionnisme du tout. Je crois vraiment qu'il y a une espèce de retenue des mots qui correspond certainement à ton moi profond, hein, ton moi profond qui enregistre tout ça, mais qui arrive à le retenir et qui, en définitive, l'exprime sous cette forme artistique. hein, qui transcende un petit peu ce quotidien. Mmh. Et le replonge dans ce qui est merveilleux, c'est-à-dire le poème, quoi.
Hein. Oui.
On me fait signe qu'on arrive au terme. On va finir, si tu veux, tu vas nous lire ce souvenir ne mène à rien.
Ce souvenir ne mène à rien. Avant lui, avant la montée dans les escaliers, avant l'appartement dans lequel ils étouffent, avant les poings rageurs qui tapent à la porte, avant les hurlements à l'intérieur du crâne, avant la peau qui plisse, les commissures qui tombent, avant le ventre vide pour mieux se tordre encore, il y a eu un jour une fillette rousse qui attrapait des mouches, qui créait des étoiles en appuyant très fort les doigts sur ses paupières. Si elle plisse les yeux en serrant des mâchoires, elle l'aperçoit encore dans le teint du miroir.
Merci Muriel Modelli. On rappelle le titre du livre, Muriel Modelli, Tomber la nuit, jour 9, collection Esparto aux éditions Hasard Atelier, éditions donc de chez nous, et ce livre vous coûtera 18 euros à lire d'urgence.
Merci beaucoup.
À très bientôt Muriel.
Merci.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine, à 10h.